RTS Info, Brigitte Rourty.
Rome, c'est fini pour Stanislas Wawrinka. Le Vaudois vient d'être battu par l'Italien Andrea Seppi, 6-7, 7-6, 7-6, en huitième de finale du tournoi de tennis de la capitale italienne. Quant à Roger Federer, il doit affronter sous peu l'Espagnol Juan Carlos Ferrero. Le gouvernement intérimaire a été investi dans ses fonctions en Grèce aujourd'hui, tandis que les 300 députés élus le 6 mai, y compris les 21 d'extrême droite, ont prêté serment pour une unique journée. Le Parlement doit être dissous demain dans la perspective des nouvelles législatives fixées au 17 juin. L'agence Fitch a dégradé la note souveraine de la Grèce d'un cran, de B-1, triple C, la note la plus basse pour un pays qui n'est pas en faillite, en invoquant un risque accru que le pays ne renonce à la monnaie unique. Le gouvernement espagnol a approuvé aujourd'hui les plans d'austérité présentés par la quasi-totalité des régions du pays qui doivent réduire leur déficit de moitié cette année, a annoncé le ministre du Budget. Ces plans vont commencer à être appliqués dès leur approbation. Cette question est fondamentale pour retrouver la crédibilité de l'Espagne, a-t-il précisé. Le nouveau chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a eu aujourd'hui plusieurs entretiens téléphoniques avec des homologues pour des prises de contact et discuter des principaux dossiers internationaux, a annoncé le Quai d'Orsay. Par ailleurs, tous les membres du premier gouvernement de François Hollande ont dû signer une charte de déontologie lors du premier conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui à l'Élysée. La reine du disco américaine Donna Summer, célèbre pour ses tubes comme Love to Love You Baby, Hot Stuff, est morte aujourd'hui des suites d'un cancer à l'âge de 63 ans. La star avait pour producteur un autre grand nom du disco, Giorgio Moroder. Elle avait remporté 5 Grammy Awards, notamment pour ses premiers succès. Le centre Carter, fondé par l'ancien président américain Jimmy Carter, a reçu le feu vert pour envoyer 22 observateurs chargés de surveiller le déroulement de la présidentielle en Égypte la semaine prochaine, a annoncé le département d'État aujourd'hui. Ces 22 observateurs se joindront à une délégation d'observateurs forte de 80 personnes. Ils seront présents quelques jours avant l'élection et resteront pendant le scrutin. Enfin, le président des États-Unis, Barack Obama, s'entretiendra en tête-à-tête avec son homologue afghan, Hamid Karzai, dimanche à Chicago, avant l'ouverture du sommet de l'OTAN, qui doit être largement consacré à l'Afghanistan, annonce aujourd'hui la Maison-Blanche. Ce sommet doit préciser le plan de transition des responsabilités de sécurité aux forces locales d'ici à la fin 2014, quand les troupes étrangères sont censées s'être retirées. Le ciel sera nuageux demain matin avec des averses intermittentes sur toutes les régions. Le temps redeviendra sec l'après-midi avec de belles éclaircies du Léman au Valais central. Voisine de 9 degrés à l'aube, la température se situera entre 17 et 21 degrés l'après-midi. Encore des passages nuageux samedi et quelques gouttes jusqu'à 23 degrés. Le ciel se couvrira à nouveau dimanche, mais il fera tout de même de 20 à 24 degrés.
Michael Kiwanuka, un nom que vous n'avez pas fini d'entendre. Une musique sans artifice qui marie l'intimité de la folk à l'élégance de la soul. Après avoir sorti le 16 avril son premier album Home Again et avoir été désigné artiste numéro 1 pour 2012 par la BBC, il vient fêter avec nous la Pentecôte en live dans le studio 15 de la radio à Lausanne. L'entrée est libre, mais les réservations obligatoires au 058 236 16 20. Home again, home again. Un grain de voix qui ne vous laissera pas indifférent lors d'une session Paradiso le lundi 28 mai de 19h à 21h sur la première.
Drôle d'histoire avec Fémina.
Drôle d'histoire, Karine Delphini.
Bonsoir. Jeudi 17 mai, l'Ascension. On ne va pas consacrer l'heure à des récits liés à ce jour, mais nous aurons tout de même une histoire de curé. Le curé de Jolimont qui aimerait bien que ses paroissiens s'élèvent un peu. Pas jusqu'au ciel, mais qu'ils ouvrent une porte, celle qui accède aux rêves, voire aux fantasmes, parce qu'il sera justement question de son propre fantasme. Et puis avant le curé de Jolimont, je vous lirai un conte à l'envers. Non pas que j'ai en tête de commencer par la dernière page, mais c'est le titre du livre, Conte à l'envers. Lolita et Jacques Mourican seront aussi parmi nous après ces deux récits. Et pour ce long week-end, c'est Stéphane Tornard qui œuvre en régie et François Piton qui nous choisit les chansons. La première, Il y a des azous.
Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc, noir, jaune, rouge et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous. Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà Zazou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour. Vous serez tous Zazou comme nous, car le Zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement. Et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est zazou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur gendre avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis azou. Et des azous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société devant payer sa dette, devant la guillotine Jajani dit je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Zazou, on s'y retrouvera. Car c'est fou ce qu'on rigolera. Quand je me la douche, on chantera comme ça.
Il y a des azous, Brigitte Fontaine et M. Nombreux sont les contes qui ont été détournés. Mais les premiers à les avoir mis en pièces, réécrits avec beaucoup d'humour, notamment les contes de Grimm et de Perrault, ce sont Philippe Dumas et Boris Moissard vers 1980. Non pas pour se moquer, hein, mais au contraire, pour leur rendre hommage. Alors certainement que demain, je vous lirai Le Petit Chaperon Bleu Marine, mais ce soir, j'ai choisi Contes à rebours. Dans la bonne ville de Frasques, capitale de la Boursoulavie occidentale, vivait un malheureux nommé François Lunet. Malheureux du fait qu'il ne marchait pas dans le même sens que tout le monde. François Lunet marchait à reculons, et ça lui gâchait l'existence. Pour être heureux, il faut d'abord passer inaperçu. Tout avait été mis en œuvre et des sommes folles dépensées dans son enfance par ses pauvres parents pour que le petit François veuille bien repartir dans le bon sens. Hélas, consultation des sommités de la médecine, gymnastique corrective, massage, bain de boue, rien n'y avait fait. Le bambin avait persisté dans sa marche à reculons. On avait fait venir le célèbre professeur du Tyran, premier spécialiste du royaume en matière de troubles de la circulation pédestre. C'était un praticien éminent, surtout quant à l'élévation de ses honoraires, et principalement habile à mettre un nom sur les mots inconnus. Alors il qualifia l'infirmité de François d'inversion ambulatoire opiniâtre. Et il dit que selon lui, il n'y avait aucun espoir de guérison. Se contentant, Monsieur Lunet père mourut d'un accès de chagrin. François eut une jeunesse maussade. Exempté du service militaire, et il en perdit tout prestige auprès des demoiselles, qui lui trouvaient l'air bizarre à se présenter toujours de dos. Donc il ne se maria pas. Quant à trouver du travail, les employeurs de Frasques s'étaient apparemment donné le mot. On n'embauchait que cette catégorie de jeunes gens allant de l'avant. Et tout ce que François put décrocher fut un poste mal payé de veilleur de nuit. En sorte que, à l'âge de 34 ans, après 10 ans de labeur, la situation de notre héros se présentait comme suit. Il était pauvre, il était seul, il était triste, il vivait dans une mansarde, son linge n'était pas reprisé et il ne mangeait que des conserves. Et par-dessus tout, il continuait à marcher à reculons et à présent c'était fichu, il ne se corrigerait plus parce qu'à partir d'un certain âge, c'est trop tard pour se réformer. Les perspectives d'avenir de François Lunet n'étaient pas folichonnes. Or, en ce temps-là, le souverain, régnant sur la Boursoulavie occidentale, était le roi Livaro IX, qui était un très grand roi. Bon chasseur, bon poète, passionné de voitures, grand mélomane et surtout majesté extrêmement puissante. Il suffisait qu'il dise « je veux » ou même seulement qu'il le pense, pour qu'il en soit fait aussitôt selon ses moindres désirs. De son union avec la reine Aubergine, naquit une petite fille, Chouette. Et quand elle eut 13 mois, un vent d'horreur souffla sur la Boursoulavie occidentale, car la petite princesse Chouette, dont on attendait impatiemment les premiers pas, venait de les effectuer à reculons. Eh oui, c'est ça, à reculons. On convoqua le fameux professeur du tyran, qui vint accompagné de toute son équipe. Il rediagnostiqua son inversion ambulatoire opiniâtre, à laquelle il adjoignit le qualificatif de récurrente, puisqu'il la voyait pour la seconde fois. Il répéta que c'était grave, sans doute incurable, et prononça quelques mots venant du grec. Il émit enfin l'opinion que ça n'était pas de chance pour les royaux parents, et sur quoi il prit congé, laissant tout le monde très abattu. S'obstinant à vouloir guérir sa petite Chouette, en dépit de ce verdict pessimiste, le roi commanda qu'on essaie tous les traitements, qu'on mette en œuvre toutes les thérapeutiques, qu'on expérimente toutes les potions. Et enfin, absolument rien n'ayant d'effet, on proféra beaucoup de jurons et de blasphèmes, tandis que la princesse continuait de grandir dans sa fâcheuse tendance, absolument rebelle à toutes les tentatives. Le roi Livaro et la reine Aubergine n'étaient plus que les ombres d'eux-mêmes, transis de désespoir et ont commencé à craindre pour leur santé. Mais après un an de ce régime, le roi, qui était un monarque avec du ressort, le contraire d'une chiffe-molle, qui n'avait pas l'habitude que les choses lui résistent, sortit soudain de son chagrin. Il abattit son poing sur l'accoudoir de son trône, où ses larmes avaient favorisé la pousse de champignons, et il décida de passer lui-même à l'action. Il rédigea une loi qui obligeait tout le monde à marcher à reculons. Celui qui désobéirait serait pendu. Ça fut du jour au lendemain une belle pagaille en Boursoulavie occidentale. La loi fut affichée à tous les coins de rue. Chacun s'efforça aussitôt de l'appliquer, vaille que vaille, et fit de son mieux pour suivre la consigne officielle. Mais il n'est pas commode de changer ses habitudes, et il y eut beaucoup de pendus. Le pays se paralysa, ou presque. Partout, ce ne fut que collision, chute, fêlage de coccyx. L'activité économique s'en ressentit. Et le roi était devenu grognon, il n'allait plus à la chasse, ne composait plus de poèmes, il restait au palais, passant ses journées à faire les 100 pas, à reculons, pour donner l'exemple. Mais faute d'y réussir avec le brio voulu, il enguirlandait son entourage et ordonnait des pendaisons. Même la reine se faisait réprimander, traitée de bon à rien. On ne dansait plus au palais, on se menaçait du gibet, l'ambiance était devenue patibulaire. Et un matin qu'il était à sa fenêtre, le front contre la vitre, Livaro IX aperçut, à travers le brouillard de sa mélancolie, un passant, dans la rue, remarquable en ce qu'il marchait à reculons, bien plus vite et bien mieux que tout le monde. Il y montrait une technique exceptionnelle. C'était un homme chauve d'environ 35 ans, le dos rond, la mise modeste, mais cette virtuosité à se mouvoir conformément aux ordres de son roi tenait réellement du prodige et ne pouvait qu'annoncer un sujet hors du commun. Livaro fit un bond d'enthousiasme. « Qu'on m'aille quérir ce citoyen modèle !» s'écria-t-il. « Je veux le féliciter. Rattrapez-le immédiatement !» Les gardes se précipitèrent et on amena le passant. Et quand il l'eut devant lui, Livaro IX le gratifia tout d'abord d'une forte accolade, et puis il s'enquit de ses noms, prénoms et qualités. « Sire, je m'appelle François Lunet, » répondit l'homme, « et je suis veilleur de nuit pour vous servir. » Séance tenante, Livaro fit remettre à cet être d'élite plusieurs décorations et titres honorifiques. « Monsieur Lunet, vous savez, je vais avoir besoin d'un nouveau Premier ministre. Voulez-vous me faire la grâce de m'en tenir à lieu ?» Le poste n'est pas trop mal payé, mieux que celui de veilleur de nuit en tout cas. Parole auxquelles il ajouta celle-ci d'encore plus stupéfiante. « Et pour commencer, je vous annonce votre mariage. Vous épouserez ma fille dès que possible. » Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard. La princesse Chouette, d'un caractère facile et enclin au festoiement, ne fit aucune difficulté. D'ailleurs, une petite fille de 2 ans n'a pas son mot à dire. Quant au marié, on lui tailla de beaux habits et on le fit passer tour à tour entre les mains du bottier, du coiffeur et du confesseur de la maison du roi. Au sortir de quoi, on ne le reconnut plus tant était fière son allure. 3 évêques qu'on célébrèrent la messe, qui fut grandiose, et pendant laquelle la princesse, en robe blanche et petits chaussons de laine, une cagoule sur la tête et sa tétine au bec, ne cessa de trépigner au son de l'orgue en tirant sur la manchette de son promis. François Lunet avait été nommé Premier ministre et prince consort, mais aussi grand officier de l'ordre du rétroviseur, secrétaire général du parti du rebours, membre du collège des écrevisses et soldat de première classe. Moyennant quoi, il gouverna fort bien, témoignant dans ses nouvelles fonctions d'autant d'attitude qu'à celle de veilleur de nuit. Il fut très populaire et le resta de longues années, travaillant comme une brute, pour la plus grande satisfaction de son roi, auquel tout loisir était ainsi laissé de chasser le renard et de pratiquer la versification. Le peuple aimait surtout le Premier ministre parce qu'il pendait peu. Bon, il faut dire que tout le monde maintenant marchait à peu près correctement à reculons, en bourse ou la vie occidentale. Il n'y avait plus à sévir. 15 ans après, le roi Livaro vint à mourir. Et François Lunet monta sur le trône, sous le nom de François Ier. La princesse Chouette avait grandi. Elle présentait maintenant l'aspect enviable d'une ravissante jeune reine, fort bien faite, dont n'importe quel mari fût tombé amoureux. Et on apprit un jour qu'elle attendait un heureux événement. Et 8 mois plus tard, venait au monde un petit garçon dont la naissance fut célébrée à travers toute la bourse ou la vie occidentale, moyennant le genre d'allégresse qu'on a déjà vu, et le surcroît de faste qu'on imagine s'agissant de l'héritier du nom. On l'appela Vocifero, par référence à ses capacités vocales. Mais vint bientôt l'époque que le dauphin fasse enfin ses premiers pas. Et tout le monde se posait, non sans angoisse, la question de savoir dans quel sens il voudrait bien les accomplir. S'il marcherait à reculons, comme ses parents, ou bien s'il tiendrait au contraire de ses grands-parents et irait de l'avant, selon les pratiques ancestrales. Et un soir que le roi François Ier rentrait au palais au terme d'une dure journée de travail, il trouva tout son monde assemblé dans l'antichambre à l'attendre, l'air mi-figue, mi-raisin. « Eh bien » demanda-t-il en accrochant son chapeau à la patère royale. Et la reine Chouette s'avança. « Mon ami, mon doux seigneur,
Vous allez avoir besoin de toute votre force d'âme. J'ai une pénible nouvelle à vous apprendre. Votre fils a marché.
Alors ? Dit François en ôtant ses chaussures et en enfilant ses pantoufles. Parlez ! En avant ou en arrière ?
Ni l'un ni l'autre, mon doux ami, notre petit vociféro, a marché sur les mains.
Madame, vous plaisantez ? Ce n'était malheureusement pas une farce. Le roi s'affligea énormément de ce coup du ciel et dîna ce soir-là sans le moindre appétit. Mais il était un roi ingénieux et dès le lendemain matin, à la première heure, il convoqua son premier ministre, un certain Max Tricounet. « Mon cher Max, lui dit-il, de toute façon c'était modernisé à la cour, on s'appelait par son prénom. « Mon cher Max, vous êtes certainement au courant de ce qu'il arrive à notre petit vociféro, qui un jour sera assis sur ce trône à ma place. » Il marche sur les mains. Vous vous souvenez peut-être des mesures qu'avait prises mon illustre prédécesseur, le grand roi Livaro, dans une situation comparable. Je pense que vous saurez ce qu'il vous reste à faire.
Mon cher François, j'ai compris, répondit Max Tricounet. Et il se retira dans son cabinet de travail afin de rédiger le texte de loi approprié. C'est depuis cette époque que la Boursoulavie occidentale est devenu ce pays où tout le monde marche sur les mains et qui fournit en gymnastes, équilibristes, funambules et acrobates la quasi-totalité des chapiteaux d'Europe.
Mașca de bregostar Țicne gudli, banda șucar Ilam neceaiora, catarsion penem Eromasi, cataro, marso, palerona, catare, venera Mensa manda, trito planeta, catare, planeta, pedera Canana, canana, can, ho, ho, ho Sino Miami Pujen kai si la chobito kai si o pipe osto Jana v kaj si kugle čave, Bog je stvorio i to. Ero masi katero marso, palero ne katere venera. Ne se manda trito planeta, katere planeta pedera. Kranana, kranana, ken hop, hop, hop. Sino Miami Penela voi
si nu mai am munte.
Hop, hop, hop par Goran Brekovic. En début d'émission, je vous parlais du curé de Jolimont. Alors je vais vous raconter un bout de son histoire. C'est un extrait de la nouvelle « Le fantasme du curé » du livre « Des taureaux et des femmes » de Catherine Gaillard-Saron, publié aux éditions « Plaisir de lire ». Il ne pensait plus qu'à ça, le bon curé de Jolimont. Il n'avait plus rien d'autre dans la tête. Depuis qu'il l'avait vu dans un magazine spécialisé, elle lui envahissait complètement, intégralement l'esprit. La photo avait pris place au fond de sa conscience et, pareil à l'écran de veille d'un ordinateur, apparaissait dès qu'il était inoccupé. Cela le perturbait au plus haut point. Il en souffrait beaucoup. Lui, si probe, si droit, si assoiffé de pureté, était hanté par un fantasme dont il n'osait même pas formuler le nom. Mais que lui arrivait-il ? Il songea que tout avait commencé le jour où il avait décidé de ranger le grenier de la cure. C'est là, dans un vieux carton abîmé, qu'il avait trouvé la fameuse revue. Il se souvenait qu'il était fatigué, qu'il s'était assis un instant pour la feuilleter sans penser à mal. Qu'il regardait ça comme il aurait regardé autre chose. Le temps de se reposer un moment. Tout ça ne l'intéressait pas. D'ailleurs, n'avait-il pas fait vœu de chasteté et de pauvreté? Et puis tout à coup, au fil des pages, une photo particulière avait attiré son attention. Pas n'importe quelle photo, puisqu'elle représentait en quelque sorte la quintessence de l'idéal qu'il avait dans le cœur depuis de longues années, depuis son adolescence en fait. Vieux fantasme jamais assouvi, et dont il savait pertinemment aujourd'hui qu'il ne devait et ne pouvait le satisfaire. C'est à cette seconde précise que tout avait basculé. Il avait nettement ressenti ce petit pincement au cœur, né de cette envie impossible. Cette trouble convoitise qui s'était soudain infiltrée au plus profond de son âme. Il n'était pas dupe, ni homme à désavouer son ressenti. Il savait parfaitement que ce n'était pas la gazette qui posait problème. Non, c'était lui le problème. La vision de cette image avait brusquement rouvert en lui des portes qu'il avait condamnées depuis longtemps. Des portes par lesquelles s'engouffrait maintenant toute une partie du monde à laquelle il croyait avoir renoncé. Antoine de Cornevaux, curé de Jolimont, était apprécié de ses paroissiens. Doué d'une nature généreuse et extraordinairement sociable, il était aimé et respecté de tous, en particulier par Madame le maire, femme de tête et de cœur qui avait un sens profond de la justice. Solide comme un roc, toujours vêtu de sa soutane, il arpentait, été comme hiver, les rues pentues des villages de la paroisse. Et puis les gens allaient à sa rencontre et son bon rire ponctuait les conversations. Il avait une personnalité charismatique, joviale, et il rassemblait sous son influence rayonnante les groupes les plus divers. Il rendait visite aux gens, il se déplaçait, allait de l'un à l'autre, à l'écoute, et puis pas moralisateur pour un sou, donnant à entendre à chacun ce qu'il avait à dire, tout en tenant compte de leurs demandes. Il savait y faire, oui, c'était un diplomate né. Mais confronté
ce qu'il vivait depuis quelque temps, il nourrissait de sérieux doutes quant à sa mission et surtout à sa capacité de la mener à bien. C'était surtout le soir, quand il n'avait plus rien à faire, que les images surgissaient. Son écran mental, à l'instar d'un ordinateur qui se mettait en veille, affichait alors avec obstination la photo en toile de fond. Elle le mobilisait tout entier, et il devait véritablement lutter pour éviter de se laisser aller aux perspectives qu'elle ouvrait dans son esprit. La photo prenait finalement une telle importance dans son imagination qu'elle parvenait presque à le pervertir par la simple force de sa suggestion. Mais le pire, c'était la nuit. Au pays des rêves, il ne maîtrisait plus rien et toutes ses belles protections s'évanouissaient, ses fantasmes s'exprimant alors sans tabou ni refoulement. Et il s'y perdait, son esprit jouant alors sans retenue avec ses pensées les plus folles et les plus inexprimables. Elle était là, éclatante, s'étalant sur l'écran mental de son rêve. Et elle prenait toute la place, s'imposait à son esprit libéré. Il n'osait pas s'approcher. D'abord, il lui tournait autour en décrivant de grands cercles. Et puis il s'avançait doucement, avec précaution, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuit. Il tendait la main pour la toucher, la caresser. Il se voyait la saisir à pleine main, réaliser enfin avec elle tout ce qui lui trottait dans la tête. Ah, comme il aimait ça, comme c'était bon, si bon ce sentiment de liberté extraordinaire, transcendant. Quelle merveilleuse sensation il éprouvait alors quand tous deux ne faisaient qu'un seul corps. Et puis systématiquement, au moment précis où il atteignait cette folle exaltation, il était subitement expulsé du pays des songes et se réveillait avec une impression de honte. En dépit de son questionnement, de son argumentation logique, il se sentait vil, corrompu et pollué. « Ouais, voilà, » se disait-il, honteux et coupable. Il avait trouvé la bonne épithète. Il était pollué, le curé de Jolimont. Et puisqu'il était pollué, il lui fallait donc prendre des mesures pour y remédier. Et il prit donc la résolution de se purifier. Et pour ce faire, il comprit qu'il lui faudrait s'occuper à un maximum l'esprit et les mains. Rassuré, légèrement apaisé par cette décision, il mit immédiatement en place une stratégie efficace qui devait s'avérer payante, du moins dans un premier temps. On le voyait partout, le curé de Jolimont. Le matin, il était à l'EMS, l'après-midi, il courait au fin fond du pays, réconforter une veuve dont il venait d'enterrer le mari. Il baptisait les nouveau-nés de tous les villages et puis célébrait la messe, les vêpres et les matines. Il veillait les mourants, leur donnait l'extrême onction, s'occupait des pauvres, consolait les enfants et confessait tout le monde. Et s'il lui restait du temps, il sarclait et bêchait son jardin comme un damné ou rangeait son grenier et sa cave. Il n'allait même plus au bistrot du coin, comme il le faisait régulièrement, discuter avec les paroissiens qu'il ne voyait pas le dimanche. Sa stratégie fonctionnait en partie, mais il constatait tristement que ses rêves et ses fantasmes lui manquaient. Il devait bien convenir qu'il l'avait aidé à vivre jusqu'à présent. Il se disait que rêver, éveillé ou endormi, était une part importante de la vie, et qu'il était bien dommage qu'on l'amputât volontairement de son existence. Il croisa son regard dans le miroir du vaisselier ouvert, et il fut surpris de cette image qu'il ne reconnut pas. On aurait dit qu'il lui manquait quelque chose, comme une dimension qu'il aurait perdue. Il se trouva à mauvaise mine, se remémora alors les réflexions des paroissiens qu'il avait visités dernièrement. Tous lui avaient dit combien ils le trouvaient l'air triste et fatigué. Il s'inquiétait, sincèrement, de sa santé et l'enjoignait à voir le médecin. C'est vrai, il avait perdu l'appétit. Et bien que son embonpoint n'eût que peu pâti, ses joues s'étaient creusées. Mais peut-être était-ce tout simplement sa barbe de 3 jours qu'il ne pensait même plus à raser. Il constata qu'il se laissait un peu aller, cela ne lui ressemblait pas. Et dans la paroisse, les rumeurs allaient bon train. Il était loin de se douter, le bon curé de Jolimont, quel remue-ménage suscitait son étrange attitude. Sa frénésie et son effervescence inhabituelle, ainsi que sa fatigue et son air soucieux, n'étaient pas passés inaperçus. Parmi les villageois désœuvrés et avides de commérages, cela donnait lieu à toutes sortes d'indiscrétions. Les pires soupçons étaient évoqués, et c'est avec des airs de conspirateurs qu'ils passaient devant la cure. On vit rapidement 2 clans se défier. Il y avait d'abord le clan des incorruptibles, qui soutenait scrupuleusement le curé et la version du surmenage. Et puis, il y avait le clan des autres, celui des anticurés et de tous ceux qui jasaient. Et le curé, il a peut-être pris une bonne. Toutes les nuits, il y a de la lumière jusqu'à point d'heure chez lui. Qu'est-ce qu'il peut bien faire à des heures pareilles, hein? Ben ouais, ça expliquerait sa fatigue et puis tous ses cernes sous ses yeux. Parce que d'abord, c'est où qui court tout le temps le curé? Et puis pourquoi? Là, le diable aux trousses ou quoi? Eh, les gars, il fait peut-être des choses peu avouable, comme de la fausse monnaie, ou pire. Oui, les rumeurs allaient bon train, et les villageois ne s'en privaient pas. Trop heureux d'avoir de l'animation dans leur village, ils l'alimentaient et s'en repaissaient avec délectation. Ah, le vil sentiment que celui qui permet, avec la légitimité de la foule, d'en écraser un parmi tous, et qui autorise tous les autres à se sentir meilleurs que le meilleur. Antoine de Cornevaux était reposé. Il avait bien dormi. Ses fantasmes étaient revenus, mais il ne les avait pas chassés. Il avait renoncé à lutter contre eux, et il les avait acceptés sans honte, comme faisant partie de sa vie. Et depuis, il se sentait en paix, en accord avec lui-même. Il éprouvait à nouveau de la joie, et cela venait conforter ce qu'il avait déjà intuitivement déduit. Les rêves et les fantasmes aidaient à vivre. Et Dieu ne condamnait certainement pas la joie de vivre. Il avait des fantasmes, ouais, et voilà tout. Cela ne faisait pas de lui un monstre, et cela ne modifiait ni n'altérait en rien ce qu'il était et pensait profondément. D'ailleurs, l'heure était venue pour lui d'aller faire sa prédication et il en avait fait son sujet. « Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, » entonna-t-il de sa voix puissante et mélodieuse, « la vie est quelquefois bien difficile et la foi la plus grande ne peut pallier toutes les misères et les frustrations de l'existence. C'est pourquoi le rêve existe. Le rêve est la porte de l'esprit. » Grâce à lui, nous voyageons au-delà des barrières et des frontières, emportant dans nos bagages des sentiments, des émotions, des problèmes que nous rapportons modifiés, différents ou même résolus à notre retour. Le rêve nous ressource, nous vivifie, nous purifie même. Il nous apporte la joie, il nous apaise, il nous reconstitue, nous préservant de nous fondre dans une masse indistincte et uniforme. Le rêve nous permet de conserver notre authenticité, notre essentielle diversité, notre unicité dans l'esprit. En bas, dans la fraîcheur de l'église, les paroles du curé coulaient comme une averse et rafraîchissaient carrément les paroissiens qui faisaient une drôle de tête en roulant des quinquets inquiets. Qu'est-ce que c'était que ce discours? Ça n'avait rien à voir avec les saintes écritures, cette histoire de rêve. De quoi y parlait le curé? Qu'est-ce qu'il nous prêchait là avec sa porte de l'esprit? Des rumeurs couraient d'une oreille à l'autre et se propageaient comme une vague de banc en banc, attirant soudain l'attention du curé, emporté par ses envolées lyriques. Bon, il réagissait. Il l'avait prévu, bien sûr. Ce sermon n'était pas ordinaire, il le savait. Mais il en allait de son intégrité, de la sauvegarde de son âme, presque. Il devait continuer, c'était son épreuve. Il lui fallait dépasser ce conflit de loyauté qui l'empoisonnait depuis quelque temps. Il fallait que tous, mesure ce qui l'habitait et le tourmentait pour le comprendre. Peut-on vouloir à un homme pour les rêves qu'il habite ? Peut-on considérer un homme coupable d'une chose sur laquelle il n'a pas prise ? Les paroissiens s'agitaient en dessous et une chose inhabituelle se produisit. Une voix s'éleva soudain au-dessus du bruissement confus des rumeurs. « Oui, d'accord pour les rêves, mais les fantasmes ?» demandait M. Recht. « C'est pas pareil, les fantasmes. On les crée bien soi-même, on y pense sans cesse, on se les passe dans son esprit comme un film. On s'en régale, on les recherche. Et de plus, ils perturbent les sens et l'esprit. Ils peuvent même mener au péché. C'est pas bien, les fantasmes, non, monsieur le curé ?» Voilà, on y était. Quelqu'un avait osé braver le regard de tous les autres et avait posé la question qui le turlupinait tant. Mais malgré son angoisse à affronter la question, il était satisfait, notre bon père Cornevaux. Son sermon, en dépit de son contenu hérétique, avait provoqué ce qu'aucun autre n'avait réussi avant celui-ci, susciter un intérêt suffisant pour faire intervenir un paroissien. Alors, avec toute l'honnêteté qui le caractérisait, il se mit en devoir de répondre à son interlocuteur. Un fantasme ou un rêve, s'il ne reste qu'au stade de l'imaginaire, ne font de mal à personne. Non, ce n'est pas mal d'avoir des fantasmes, monsieur Recht. Je le pense du plus profond de mon âme. C'est même une richesse intérieure qui permet d'améliorer l'esprit et qui se répercute en bien sur le corps. Et un râle s'échappa alors de la gorge du père Antoine, et à le voir ainsi, on aurait pu en déduire que ce qu'il prônait là était en complète contradiction avec ce qu'il vivait à cet instant. Le curé de Jolimont comprit qu'il allait se trouver mal. Il entendit sa voix s'éteindre et fut saisi d'un grand froid. Un abîme noir s'ouvrit devant ses yeux et il perdit connaissance. Les gens ne parlaient plus que de ça. Les fantasmes, et particulièrement ceux du curé de Jolimont, étaient à la une de toutes les conversations, chacun s'imaginant les pires excès et fourrant son nez sans vergogne dans l'intimité d'Antoine de Cornevaux. Les différents groupes campèrent sur leur position et les choses s'aggravèrent. L'affaire prit d'ailleurs une telle ampleur qu'elle en devint politique. Et la présence de Madame le maire fut désormais requise et nécessaire. Elle calma un peu les esprits. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui se passe, et j'ai peut-être une solution, » dit-elle. Parce qu'elle, elle le connaissait drôlement bien, le curé de Jolimont. Et pendant une heure encore, elle exposa aux villageois étonnés, et puis conquis, la solution. Les choses étaient plus claires à présent. Le village retrouva sa tranquillité, et les habitants de Jolimont attendirent avec impatience le dimanche suivant. Antoine de Cornevaux avait été malade pendant presque une semaine. Et lui qui ne l'était jamais s'était senti inutile et amoindri. Maintenant qu'il se sentait mieux, il avait eu tout le loisir de réfléchir aux événements de ce dernier dimanche et à son discours, qui avait fait scandale. Il ne savait pas trop quoi en penser. Mais il savait aussi que le village jasait sur lui, et que les gens colportaient commérages et ragots, et que certains mettaient même sa moralité en doute. Il en était triste. Il ferma les yeux. Elle était toujours là, fidèle, belle, sur la toile mentale de son esprit, et il la contemplait sans retenue, se fondant dans la magnifique couleur jaune dont elle était parée et qui l'éblouissait. Il voyait même avec précision le petit soleil discret et rouge esquissé sur son flanc. Il la regardait plein d'espoir résigné. Il avait accepté le fait qu'elle ne serait jamais à lui. La contempler lui suffisait à présent. Oui, il avait réussi à dominer son fantasme et l'envie qu'il en avait. Il ne faisait plus souffrir car il ne cherchait plus à le réaliser. C'était bien là la différence entre rêve et fantasme, se dit-il. Le rêve reste du domaine du subjectif, quand le fantasme est plutôt objectif. Et puis il repartait dans ses rêveries. Il imaginait sa vie avec elle. C'est sûr que cela changerait tout. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il se disait qu'avec elle, il aurait été en meilleure forme et qu'ainsi, il aurait pu faire plus de travail et aider plus de gens. Ouais, il rêvait. Il le savait à présent et cela lui faisait du bien. C'était comme si elle avait été un petit peu là quand même. Il ne regrettait plus les joies qu'elle aurait pu lui procurer dans la réalité. Il avait réussi à transcender son désir et il en était fier. Il avait gagné un combat. Cette victoire le renforçait dans sa foi et dans son être. Mais n'était-ce pas la même chose au fond? Alors oui, il pouvait bien se laisser à rêver tout son sou, c'était bon, et sa vie n'était pas si excitante après tout. La vie procédait du combat, même des plus minuscules. Il le savait et l'expérimentait chaque jour. Ce beau matin de dimanche, le curé de Jolimont, guéri, se sentait bien. Il éprouvait un étrange sentiment de complétude, un accord total entre lui et toute chose environnante. Et à l'église, quand il salua le dernier fidèle et qu'il se retourna, il fut stupéfait de constater que l'église était pour une fois pleine à craquer. Il n'avait jamais vu ça. Cela lui sembla bizarre. Il promena son regard sur l'assemblée et des larmes lui vinrent presque aux yeux. « Mon Dieu, que c'était beau !»« Ma parole, serais-je au ciel » pensa-t-il. Jamais de sa vie, il n'avait vécu pareille chose. Il se racla la gorge et débuta son oraison. Sa voix tremblait légèrement. Il avait du mal à gérer tout ce qui agitait son cœur. Ses yeux clairs se posèrent sur Madame le maire. Fidèle paroissienne entre toutes, qui à cet instant le considérait d'un air de sainte. Il se demanda bien ce qui pouvait motiver de tels regards et en éprouva presque de la gêne. Il n'arrivait pas à se défaire de ce sentiment que tout était étrange aujourd'hui. Tout semblait si parfait que cela en devenait véritablement irréel. Et puis, Madame le maire, à la fin de l'oraison, prit la parole. « Monsieur le curé, les villageois et moi-même avons préparé une petite réception en votre honneur et vous nous feriez un grand plaisir d'y assister. Et puis, nous avons une petite surprise pour vous. » Et à ce moment-là, un tracteur fit son entrée sur l'esplanade. Et derrière lui, il tractait une remorque sur laquelle était posé un gros paquet. Il fit halte devant le père Antoine et on déchargea le cadeau. « Allez, monsieur le curé, à vous l'honneur, coupez le ruban !» Il s'avança tout drôle vers le cadeau. Il prit les ciseaux et coupa d'un coup le ruban. Le papier se défit et tomba doucement de chaque côté, révélant soudain une magnifique Vespa jaune. « Oh ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu !» Il tomba à genoux face contre terre, puis se releva et leva les mains au ciel en remerciant le Seigneur et en lui rendant grâce. « Mon Dieu, mon Dieu !» Mais il ne pouvait rien dire d'autre. Et les paroissiens pressés autour de lui riaient, émus par cette joie pure, profonde, qui irradiait de cet homme qu'ils avaient honteusement blasphémé. Madame le maire, décidément très fine et diplomate, s'approcha d'Antoine de Cornevaux et l'aida à se relever. « Allez, monsieur le curé, reprenez-vous. Nous sommes vraiment tous très heureux de voir à quel point notre cadeau vous fait plaisir. Nous avons certes un beau village, mais personne n'ignore ici à quel point il est pentu. Et de plus, le vélo de la cure est en piteux état. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de vous offrir une Vespa. Cela vous soulagera dans vos déplacements, ça vous facilitera certainement la vie. Allez, essayez-la, monsieur le curé, montrez-nous comment elle roule. » S'il ne pouvait plus parler, il pouvait encore marcher. Alors, comme dans un rêve, il s'en approcha. Il lui tourna autour en décrivant de grands cercles, et puis il s'avança doucement, avec précaution, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuit. Il tendit la main pour la toucher, la caresser. Il admira sa belle robe jaune, éblouissante dans la lumière estivale. Il vit le petit soleil rouge et discret, dessinée sur son flanc. Elle était là, à portée de main, éclatante, telle qu'il l'avait toujours vue dans ses rêves d'adolescent. Son fantasme. Il brandit la photographie de la Vespa jaune qui avait hanté son esprit durant plusieurs semaines. Les voies du ciel sont impénétrables. Mais à présent, elles sont carrossables pour le curé de Jolimont qui s'en va désormais, cheveux au vent et motorisé, porter la bonne nouvelle aux quatre coins de la paroisse.
You look like an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. Mm-hmm. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Surprise. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are.
Devil in Disguise, Elvis Presley. Après le fantasme fou du curé de Jolimont à posséder une Vespa jaune, Lolita et Jacques Mourican vont dialoguer avec un clou, un récit de Jacques Bombay.
Les journalistes enquêtent toujours auprès des gens pour savoir ce qu'ils pensent des choses, mais jamais ils n'auraient eu l'idée d'enquêter auprès des choses pour savoir ce qu'elles pensent des gens. Jamais on a vu un journaliste s'adresser à une table, à une chaise ou à une caisse, par exemple, pour savoir ce qu'elles pensent des humains. Moi, je suis pas journaliste, mais j'ai décidé d'aller interroger les choses pour savoir ce qu'elles sont et comment elles nous jugent. J'ai pris les choses en main pour qu'elles puissent s'exprimer. C'est ainsi que, entrant dans un vieux bazar, je me suis dirigée vers le rayon des clous afin de dialoguer avec l'un d'eux. Les clous m'ont tout d'abord reçue avec méfiance lorsque je leur ai fait part du but de ma visite. Il y en a même un qui a dressé sa tête en se hissant sur sa pointe et qui m'a dit
« Attention, ne cherchez pas à nous mettre en boîte ou à nous acheter. »
Alors je lui ai dit à ce clou « Mais s'il vous plaît, ne soyez pas aussi pointu, je n'ai que de bonnes intentions à votre égard. »
Que voulez-vous, c'est normal que nous soyons méfiants envers vous, les humains. Vous ne pensez qu'à nous taper dessus et à nous enfoncer. À cause de vous, c'est triste la vie d'un clou. D'ailleurs, voyez comme nous sommes maigres. Je vous parle pas de tous ces coups que l'on reçoit sur la tête, on en devient complètement marteau.
Il y a donc aucun agrément dans une vie de clou ? Ça vous arrive jamais de rire ?
Si, bien sûr. Quand je regarde la grimace que font les gens quand ils m'enfoncent, je suis obligé de me tordre, et encore plus quand ils tentent de me redresser. Mais à part ça, pour nous, la vie est monotone et dure, nous passons notre temps à supporter le poids des casseroles, des étagères ou des tableaux. Tenez, pour ma part, j'ai dû supporter un vieux tableau pendant 50 ans. J'ai gâché ma vie.
Mais vous pourriez essayer peut-être de vous élever au-dessus de votre condition.
Ça arrive parfois quand on nous plante au plafond. Mais c'est sans suite, car comment s'élever en importance lorsqu'on ne vaut pas plus qu'un clou?
Vous vous méprenez sur votre compte. Il y a des gens qui sont au-dessous de vous.
Non, c'est pas possible.
Si, il y a des gens qui ne valent pas un clou.
Oui, mais malgré tout, même ces gens qui ne nous valent pas se permettent tout de même de nous taper sur la tête et de nous marcher dessus lorsqu'ils traversent sur un passage clouté. Et là, c'est pas gai de se faire marcher sur la tête par les gens quand ils ne sont pas soldats.
Et quelle différence faites-vous entre des soldats et les autres personnes lorsqu'on vous marche sur la tête sur un passage clouté?
Ah ben parce que les clous que les soldats ont sous leurs souliers nous saluent toujours d'un coup de tête au passage. Et ça nous fait plaisir de voir passer des clous comme nous, bien qu'ils soient quand même un petit peu différents vu qu'ils exercent d'autres fonctions.
Comment ça, d'autres fonctions?
Oui, ils sont toujours en déplacement, tandis que nous, on est toujours cloués à la même place.
Et vous estimez qu'ils sont mieux lotis que vous?
Non, finalement, on est tous sous la botte.
Mais enfin, y a-t-il pas des clous privilégiés?
Ah bah oui, il y a les clous de girofle.
Pourquoi?
Bah parce qu'ils sont plus raffinés que nous.
Je vois pas pourquoi.
C'est pourtant évident, ils ont beaucoup plus de goût que nous.
Vous ne pouvez pas oublier malgré tout qu'il y a des clous n'étant pas de girofle qui ont pu percer et qui ont fait leur chemin.
Non, ils ont toujours trouvé un mur devant eux.
J'ai compris alors que je ne tirerais plus rien de ce clou pessimiste. Il m'avait tout dit de la vie d'un clou. Je pris donc congé du marchand qui restait cloué sur place au milieu de son vieux bazar en me voyant converser avec l'un de ses clous. Avant que je sorte, il m'a dit
« C'est la première fois que je vois un client comme vous. Vous êtes vraiment le clou de la journée. »
If I had a hammer, Trini Lopez. Et il est temps de fermer nos livres.
Drôle d'histoire, avec Fémina.
Stéphane Tornard a réalisé cette émission et François Piton a choisi les chansons. Alain Maillard sera près de vous après les informations pour la ligne de cœur. Bonne fin de soirée. Il est 22h sur la première.